Chapitre 17. La guerre. Sans autre nécessité que celle de se donner une contenance, le maire de la fondation lissa du plat de la main la couronne de cheveux raides qui lui entourait le crâne. Il soupira.
Toutes ces années perdues, toutes ces occasions dont nous n'avons pas su profiter. Je ne reproche rien à personne en particulier, docteur Darrell. Mais si nous perdons, nous l'aurons bien cherché. Je ne vois aucune raison de désespérer des événements, monsieur,
dit Darrell.
Aucune raison de désespérer? Mais par la galaxie, il y aurait de quoi, au contraire. Venez donc par ici.
Il poussa, plus qu'il ne guida, Darrell, en direction de l'ovoïde translucide qui reposait avec grâce en équilibre sur son champ de force. Sur une pression de la main du maire, l'objet s'illumina intérieurement, et l'on vit paraître un modèle réduit à trois dimensions de la double spirale galactique.
En jaune, nous avons les secteurs encore sous le contrôle de la Fondation,
dit le maire surexcité,
et en rouge, ceux de Kalgan.
Darrell vit alors une sphère écarlate, enserrée par un point jaune qui l'entourait de toutes parts, sauf dans la région centrale de la galaxie.
« La galactographie, dit le maire, est notre plus grand ennemi. Nos amiraux ne font pas mystère de notre position stratégique. Elle est désastreuse. Voyez, les lignes de communication de l'ennemi restent concentrées par la force des choses. Il peut nous faire face de tous côtés avec une aisance égale. Il est à même d'assurer sa défense en y consacrant un minimum de force. Quant à nous, c'est le contraire. » Nous sommes étendus en surface. La distance moyenne séparant les systèmes habités est à peu de choses près trois fois plus grande dans la Fondation que dans l'oligarchie de Kalgan. Pour se rendre de Santani à Locris, par exemple, nous devons emprunter un itinéraire de 2500 parsecs, quand il leur suffit de parcourir 800 parsecs si nous nous en tenons à nos territoires respectifs.
« Je saisis parfaitement la situation, monsieur, » dit Darrell.
« Ce que vous n'avez pas l'air de comprendre, c'est qu'en continuant ainsi, nous courons à la catastrophe. Les distances ne font pas tout dans un conflit. J'affirme que nous ne pouvons pas perdre. C'est rigoureusement impossible. Et pourquoi dites-vous cela ?
À cause de mon interprétation personnelle du plan Seldon.
Oh !
Réagit le maire en faisant la grimace, tandis que, derrière son dos, ses mains claquaient nerveusement l'une contre l'autre.
« Alors vous aussi, vous avez foi en l'aide mystique de la Seconde Fondation ?»«
Non. J'ai foi en ce qui est inévitable. Mais je crois également aux vertus du courage et de la persévérance. » Pourtant, derrière cette confiance de façade, le doute s'insinuait en lui. Et si finalement, Antor avait raison? Et si Kalgan n'était qu'un instrument entre les mains de ces sorciers de l'esprit? Et si leur propos était de vaincre et de détruire la Fondation? Non, cela n'avait pas de sens. Et pourtant, il eut un sourire amer. Toujours la même histoire. Il se retrouvait encore une fois au pied du mur, à tenter vainement de percer du regard une muraille de granit dont il savait qu'elle était parfaitement transparente aux yeux de l'ennemi. Les réalités de la situation galactique n'échappaient pas davantage à Stettin. Le seigneur de Kalgan se tenait pour l'heure devant la réplique exacte de la maquette galactique que le maire et Darrell venaient d'examiner. Avec cette différence pourtant, que ce qui faisait froncer les sourcils du maire amenait un sourire sur les lèvres de Stettin. Son étincelant uniforme d'amiral était mis en valeur par sa massive prestance. L'écharpe écarlate de l'ordre du Mulet, dont le précédent premier citoyen l'avait décoré 6 mois à peine avant de lui céder la place à son corps défendant, barrait diagonalement sa poitrine de l'épaule à la ceinture. L'étoile d'argent, avec la comète double et les épées, étincelait sur son épaule gauche. Il s'adressait aux 6 membres de son état-major général, dont les uniformes étaient à peine moins tapageurs que le sien, en même temps qu'à son premier ministre, personnage éthique et terne dont la présence détonnait autant qu'une toile d'araignée grisâtre rencontrée au cours d'une promenade par une belle journée ensoleillée.
« Je pense, dit-il, que notre voie est toute tracée. Nous pouvons nous permettre d'attendre et de voir venir. Pour nos adversaires, chaque jour qui s'écoule est un nouveau coup porté à leur morale. S'ils tentent de défendre l'ensemble de leur territoire, ils allongeront démesurément leur ligne de défense. Et nous pourrons leur porter simultanément deux coups de boutoir, ici et là. »
Il indiquait du geste la maquette de la galaxie où deux flèches blanches, partant de la sphère rouge, traversaient la tenaille jaune qui l'enserrait, isolant Terminus de part et d'autre selon un arc de faible rayon.
« Ainsi, nous sectionnerons leur flotte en trois tronçons, que nous pourrons anéantir séparément. S'ils se concentrent, ils devront abandonner volontairement les deux tiers de leur dominion, au risque de se retrouver probablement confrontés à des soulèvements. »
Seul le mince filet de voix du Premier ministre rompit le silence qui suivit.
« Dans 6 mois, dit-il, la Fondation sera plus forte de 6 mois. Ses ressources sont plus grandes que les nôtres, comme nous le savons tous. » Leur flotte est numériquement supérieure, leurs réserves humaines sont pratiquement inépuisables. Peut-être une offensive éclair serait-elle préférable.
De toutes, c'était la voix du Premier ministre qui avait le moins d'influence dans la pièce. Le seigneur Stettin sourit, balaya l'espace du plat de la main.
« Ces 6 mois, qui pourront devenir une année en cas de nécessité, ne nous coûteront rien. » Les gens de la Fondation ne sauraient se préparer à quoi que ce soit. Ils en sont idéologiquement incapables. Ils comptent sur la seconde Fondation pour les sauver, c'est l'essence même de leur philosophie, mais cette fois-ci, ils se trompent. N'ai-je pas raison ?
Les assistants s'agitèrent d'un air contraint.
« Je constate que vous manquez de confiance, »
dit Stettin d'un ton glacial.
Est-il nécessaire de vous répéter une fois encore les rapports de nos agents qui nous sont parvenus du territoire de la Fondation ou de vous citer les découvertes de M. Omir Mun, cet agent de la Fondation désormais à notre service? Messieurs, je vous propose que nous levions la séance.
Stettin rentra dans ses appartements avec sur le visage le même sourire figé. Il s'interrogeait parfois sur le compte de ce Omir Mun, curieux bonhomme, à l'échine souple, qui n'avait guère justifié les premiers espoirs mis en lui. Et pourtant son esprit fourmillait de renseignements qui emportaient invariablement la conviction, surtout lorsque Kaïa était présente. Son sourire s'élargit. Cette grosse idiote avait ses bons côtés après tout. Du moins parvenait-elle, par ses cajoleries, à tirer les vers du nez à Mun avec plus de succès que lui-même et à moindre frais. Pourquoi ne pas en faire cadeau à Mun, après tout ? Il fronça les sourcils. Kaïa. La jalousie incarnée. Par l'espace, si seulement il tenait toujours la petite Darel. Pourquoi n'avait-il donc pas réduit en bouillie la tête de cette grosse imbécile pour la punir de lui avoir joué un tour pareil ? Il avait beau chercher, il n'arrivait pas à trouver la raison de sa mansuétude. Peut-être parce qu'elle s'entendait bien avec Mun, et qu'il avait besoin de Mun. C'était Mun, par exemple, qui avait démontré que, selon l'opinion du mulet, la seconde Fondation n'existait pas. Ses amiraux avaient grand besoin de cette assurance. Il aurait aimé étaler l'épreuve au grand jour, mais il valait mieux laisser la Fondation croire à l'existence de cet allié chimérique. N'était-ce pas Kaïa qui lui avait suggéré cette tactique ? Oui, c'était vrai. Elle avait dit... N'importe quoi. Elle était bien incapable de dire quelque chose. Et pourtant... Il secoua la tête pour s'éclaircir les idées et pensa à autre chose.